auditeurs, bienvenue dans l'émission Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Merci de votre fidélité et de vos messages, auxquels nous répondrons toujours promptement, comme ce fut le cas avec un auditeur cette semaine. C'est toujours très agréable de pouvoir échanger avec vous, donc merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose, enfin pour moi c'est une découverte totale. Ève est la seconde femme de l'histoire selon la Bible, mais qui fut donc la première? Justina répondra à cela. Bonjour Justina.
Bonjour.
Ensuite, ce sera le grand retour de Patrick Sbalchiro, comme je vous l'avais promis cet automne. Nous parlerons des EMI, soit les expériences de mort imminentes. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Nous ferons deux émissions sur le sujet, ce sera passionnant. Alors Justina, nous vous écoutons.
Non, j'ai pas dit que quand même que Ève c'est la deuxième femme, je cherche plutôt à débunker le mythe de la première et la deuxième femme. Donc bonjour chers auditeurs. Donc il y a un sujet qui revient à la mode de temps à autre et c'est vrai que je compte l'aborder. Car encore étant lycéenne, j'avais entendu cette étrange information selon laquelle on nous a menti, Ève n'est pas la première femme de l'histoire selon la Bible, la première femme était Lilith et comme c'était une brave féministe insoumise, elle a été chassée du paradis et Ève n'a été créée qu'après comme un prototype de la femme soumise. Aujourd'hui, de nombreuses personnes croient à cette histoire et même certaines prétendent travailler avec Lilith. C'est une manière de dire, pour certains qui pratiquent soi-disant la magie, en s'adressant à elle, et ça touche aussi toutes sortes d'ésotérisme. Certaines féministes de troisième vague la prennent aussi comme un archétype sans pour autant y croire. Et la question qui se pose quand même, est-ce que c'est une invention récente qui circule sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un savoir ésotérique profond, enfoui dans les sous-sols du Vatican depuis les siècles? Donc, si vous avez lu le livre de la Genèse, vous savez très bien qu'il n'y a strictement rien de semblable dans le récit de la création d'Adam. Nous avons déjà tout analysé pendant une émission cette année. Mais cette histoire doit bien venir de quelque part, n'est-ce pas? Est-ce que Lilith figure dans la Bible? Alors, une chose est vraie, oui, le mot Lilith figure dans les Écritures. Pas du tout dans la Genèse, mais dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 34, versets 13 et 14. Dans les citadelles pousseront des épines, dans ses forteresses orties et chadrons, ce sera le jour des chacals, la pâture des autruches. Les chats sauvages y couetteront les hyènes, les boucs s'appelleront l'un l'autre. C'est là que le démon de la nuit se tapira pour y prendre son repos. Comme vous pouvez voir, le mot Lilith est traduit ici comme tout simplement comme démon de la nuit. Dans d'autres traductions, nous avons le spectre nocturne et parfois aussi le hibou. Donc ça varie en fonction des traductions. Juste un petit peu avant, il y a mon animal préféré qui est mentionné dans le verset d'avant, c'est l'hérisson. Et vu que la racine du mot ici c'est Laïla, la nuit, bonne nuit en hébreu, c'est Laïla Tov. Donc Lilith n'est qu'un adjectif au pluriel dans tout ce passage et nous avons surtout une liste d'animaux qui vont reprendre le terrain et je pense que la traduction hibou ou chouette serait la plus appropriée. Tout en sachant qu'en hébreu, on utilise le mot Lilith pour désigner le strix, une chouette de petite taille. Donc juste une chouette. Nous sommes assez loin du féminisme ésotérique qui nous est vendu.
Effectivement.
Peut-être que je creuse mal. Continuons à creuser. Dans la langue sumérienne, enfin suméro-acadienne, la culture sumérienne est antérieure à la Bible. Par contre, la langue n'est pas de la famille sémitique. Le mot Lil signifie vent, air, esprit. Certains assyriologues pensent que le nom de Lilitou vient du mélange suméro-acadien de Lil sumérien et Lilou-acadien pour désigner des fantômes, des démons, mais pas que féminins, qui viennent séduire les hommes et nuire aux femmes et aux enfants et volent le lait maternel. Donc nous sommes face à des simples créatures mythologiques qu'on retrouve dans beaucoup d'autres cultures pour désigner coupables de décès enfantins, très fréquents à l'époque, de l'absence de lait chez les femmes et les pollutions nocturnes chez les hommes. C'est probablement en partant de ces croyances assez communes à l'humanité primitive que les Acadiens croyaient aussi à l'existence d'un démon ou d'une déesse malveillante, Kiskil Lila Ardat Lili ou Lilitou, qui pourchasse les femmes enceintes et les enfants en bas âge. On y trouve également des représentations assyriennes d'une femme accompagnée de chouettes ayant des pattes griffues à la place de jambes. Lilith est mentionnée 4 fois dans le Talmud en tant que succube et fait partie des croyances populaires. Mais je précise bien que le Talmud est une source écrite assez tardive, même si beaucoup prétendent qu'elle fixe une tradition orale depuis Moïse. Mais vu le nombre de choses anachroniques ou des idées directement empruntées dans des cultures externes, je ne prendrai pas le Talmud comme une source sacrée, mais une source intéressante pour relever l'histoire de la pensée hébraïque. Bon, nous avons trouvé l'archétype féminin malveillant avec un hibou, mais toujours pas la soi-disant première femme d'Adam, féministe et insoumise. D'où ça vient ? La première mention écrite qui décrit Lilith en tant que première épouse d'Adam, devenue ensuite une démone, nous vient d'une œuvre humoristique qui s'appelle l'alphabet Ben Sira, un pseudo-épigraphe médiéval, donc entre l'an 700 et 1000, où l'auteur collectionne des proverbes juifs et des anecdotes et donne des commentaires parfois ironiques en faisant référence aux personnages bibliques et aux superstitions populaires. Donc l'histoire de la première femme d'Adam part littéralement d'une blague d'un auteur anonyme médiéval qui se moquait des croyances de ses confrères. Cela n'a pas empêché que le mythe de Lilith a été ensuite enrichi par la Kabbale. Pareil, ce n'est pas de la science cachée, mystique, qui viendrait de la nuit des temps, comme nous l'avons dans la pop culture, mais une méthode d'exégèse mystique qui date du XIIIe siècle et fait un nombre incroyable d'emprunts et des concepts philosophiques parfaitement indo-européens, extra-bibliques, au point même de développer une démonologie en empruntant directement des noms qui figurent ailleurs. Par exemple, Asmodée, que tout le monde connaît, même aujourd'hui, ça vient de Ashmadev, un démon de colère chez les Zoroastriens. Et le zoroastrisme, c'est une religion indo-européenne qui en soi va en opposition avec les autres religions indo-européennes, c'était par exemple l'hindouisme. Mais voilà, on sort complètement de l'univers sémite, de l'univers hébraïque. Donc la Kabbale, excusez-moi, c'est un univers fantastique tardif et représente un mélange des croyances à la fois juives et indo-européennes, ne peut pas prétendre à l'authenticité biblique ou qu'en sais-je. Tous ces détails pour dire que chacun est libre de penser et de pratiquer ce qu'il veut, mais si on veut avoir un air sérieux et ne pas faire rire l'entourage, il faudrait peut-être fonder ses croyances. Quand un mythe part d'une blague, assaisonné par une sauce sans critique, j'ai du mal à le prendre au sérieux. Très sincèrement, je ne vois pas de différence entre les personnes qui travaillent avec Lilith ou vénèrent Lilith et des personnes qui se déguisent en elfes pour courir dans les sous-bois. Sauf que je préfère les elfes et les nains, car ils assument que ce n'est qu'un jeu.
Merci beaucoup, Justina. Bon, grande découverte quand même, tout ça. Comme je l'avais dit une fois, vous pouvez réécouter notre émission dès demain sur le site Marie de Nazareth pour les podcasts. Donc voilà, si vous voulez réécouter l'émission, notamment l'exposé de Justina, je vous invite à y aller. Alors, à présent, nous allons écouter un très joli Ave Maria de Gounod, chanté par Aïda Garifoulinani, donné lors d'un concert au Vatican en 2021.
Oh. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors à présent, plongeons-nous dans les EMI que nous appelons expérience de mort imminente. Rebonjour Patrick.
Bonjour.
Alors je vous remercie vraiment de revenir nous voir. Nous parlerons cette fois-ci sur deux émissions de ce curieux phénomène qui interroge beaucoup de monde. Et nous ne serons pas bien loin de la Vierge Marie avec ce sujet finalement, n'est-ce pas?
Oui, oui, oui.
Mais nous en reparlerons après. Alors un rappel, Patrick, vous êtes auteur de plus de 22 ouvrages, vrai spécialiste des apparitions de la Vierge Marie, puisque vous aviez coécrit avec Monseigneur Laurentin le Dictionnaire des apparitions pour lequel vous étiez venu la dernière fois. Vous êtes docteur en histoire, auteur et journaliste. Alors, vous êtes donc venu nous parler aujourd'hui des EMI, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est qu'une EMI?
Alors, d'abord, l'expression EMI a des synonymes nombreux et variés suivant les traductions. On parle parfois d'expérience aux frontières de la mort.
Ouais.
Expérience également de mort approchée, de mort provisoire et même d'expérience de mort retour. Donc, l'idée de mort est bien sûr au cœur, hein, au centre de ce phénomène. Je dirais en deux mots que c'est une expérience de vécu extrême, vécu dans une situation très particulière, consécutive à un événement, si vous voulez, traumatogène, vraiment important. Alors, prenons un cas concret, un sujet, femme, homme, enfant, en état de mort cérébrale, après un arrêt cardiaque, à la suite d'une opération chirurgicale qui s'est mal déroulée, la personne est donc considérée sur le plan clinique comme mort. Et à ce moment-là, elle vit elle-même, intérieurement, comme elle en témoignera a posteriori, après, elle vit une aventure intérieure absolument incroyable, qui est absolument inexplicable, d'une part, par la science, actuellement. Ouais. Bon, on a échafaudé, on y reviendra peut-être d'autres hypothèses, mais qui est difficilement même communicable par le sujet, tant
elle n'a pas les mots.
Elle trouve pas ses mots. Elle trouve pas ses mots. Et surtout, le sujet, bien souvent, a peur d'être moqué parce que c'est parfois délicat. C'est parfois délicat. Alors, cette EMI, ces EMI, ont quelques points communs, tout de même. Quelques points communs, quelques étapes principales dont je peux passer en revue rapidement.
Oui, hein. S'il vous plaît.
Donc, après la perte de conscience, car il y a évidemment perte de conscience, le sujet a l'impression de sortir de son corps, ce qu'on appelle la décorporation.
Mmh. Hein.
La plupart des récits mentionnent ensuite une entrée progressive dans un tunnel lumineux, avec une sensation d'être projeté à une vitesse inimaginable vers une sorte d'avant.
C'est un tunnel lumineux ou c'est un tunnel au bout duquel il y a de la lumière?
Alors, il y a les deux versions.
Ah, d'accord.
Il y a les deux versions. Là, de toute façon,
il y a le tunnel.
Il y a le tunnel et au bout, il y a la lumière. Ça, c'est sûr, c'est vrai, certain. Mais parfois, certaines personnes mentionnent déjà un phénomène lumineux à l'intérieur du tunnel. Donc, ensuite, à l'issue de ce tunnel, si je puis dire, il y a une rencontre avec une entrée dans une espèce de lumière qui n'est pas comparable à une lumière physique, solaire, etc. Les gens disent que c'est une lumière d'amour. Hein, quelque part, c'est une rencontre avec un être de lumière, vraiment que sur Terre, vous ne pouvez pas connaître. Et puis, il y a aussi, parfois, pas toujours, des rencontres avec des personnes connues ou inconnues. Des défunts, des familles, des amis déjà passés de l'autre côté, et puis ou alors des gens même qui apparemment ils n'ont jamais rencontré, etc. Donc c'est assez incroyable. Et puis ce que les gens notent à partir de ce moment-là, c'est un passage en revue de leur vie. Alors ça, c'est très intéressant. Ils ont l'impression de revivre chaque moment, chaque instant de leur existence et d'être jugés. Mais alors, d'être jugé, le mot jugé est très important. Ce n'est pas un tribunal.
Oui.
Ou alors, si c'est un tribunal, c'est un tribunal d'amour. Et la personne prend conscience, à une vitesse évidemment très rapide, hein, des fautes commises, surtout des fautes qui ont occasionné des difficultés pour autrui.
Vous
voyez, hein, il y a quand même une prise de conscience là, de la valeur, entre guillemets, morale des erreurs. Ensuite, il y a aussi un autre phénomène, alors ça c'est très intéressant, les gens vous disent on a une élévation, un agrandissement de nos facultés naturelles.
Oui.
Alors ça c'est passionnant, les gens vous disent on a des visions, on peut voir à 360 degrés. Sans tourner la
Génial.
Tête. C'est incroyable quand même. On peut traverser des parois, des murs et se rendre, alors c'est comme à la vitesse de la pensée finalement, dans le lieu auquel on est en train de penser. Et de nombreux récits mentionnent, décrivent des lieux situés à des kilomètres, parfois même à des centaines de kilomètres, de manière extrêmement précise, dans lesquels la personne, théoriquement allongée, bien sûr, sur la table d'opération ou par terre, a visité. Et puis, il y a aussi quelque chose de assez incroyable, les souffrances n'existent plus. La personne n'a plus mal, ne ressent plus aucune douleur. C'est une sorte de félicité, de paix, de sentiment de paix qui a vraiment englobe en quelque sorte le côté maladie finalement est complètement supprimé.
Ah oui.
Le côté pathogène est complètement supprimé. Et puis bien souvent, ce qui arrive, il y a dans ce voyage intérieur, une limite, une sorte de barrière. Alors, ça peut être des choses différentes, comme une barrière matérielle, une rivière, un jardin.
Un obstacle.
Au-delà duquel les personnes disent « Non, on ne peut pas passer. Si on passe cet obstacle, on ne peut pas revenir. »
D'accord.
Comme si c'était le seuil, finalement, seuil de la mort définitive. Et puis, c'est le retour en arrière. Le retour à la maison, si j'ose dire, la rentrée dans le corps, alors qui, elle, est instantanée. La personne retrouve ses différentes sensations au bout de quelques temps, avec les douleurs et avec les traitements qui lui sont infligés pour sauver son corps de chair. Et enfin, une conséquence, très importante, un fruit des EMI, c'est que pratiquement tous les sujets disent, à la suite d'une EMI, ma vision du monde, mon rapport aux choses matérielles, à l'argent,
les uns et les autres.
Exactement, tout ceci a changé, je suis beaucoup plus à l'écoute d'autrui, d'entreprises caritatives, et le spirituel a pris le pas sur le matériel. Ça, c'est indéniable.
Alors, est-ce que certains ont vu la Vierge Marie ?
Alors,
parce qu'on parle d'un être de lumière, j'ai vu des vidéos, j'ai lu des textes, on parle d'un homme essentiellement, ou comme vous le disiez, de personnes proches, mais la Vierge Marie.
Alors, je vais vous répondre par l'affirmative, oui.
J'ai rien trouvé là-dessus, alors ça m'intéresse.
Alors, deux choses, c'est assez rare. J'ai en mémoire un témoignage d'une personne que j'avais rencontrée et dont je vais vous reparler. Vraiment, le cas de figure le plus commun, si j'ose dire, le plus courant, c'est une rencontre avec un être masculin qu'on identifie comme un homme, qui pour beaucoup est le Christ, bien sûr. Mais la Vierge en tant que telle, alors il existe des récits, mais c'est assez rare. Et j'ai eu la chance, effectivement, de tomber sur un tel récit, Madame Le Goff de Tours, qui a vécu une grande EMI, à la fois positive et négative, du reste.
Oui, alors nous y viendrons après de ces expériences.
Et elle indique qu'elle a vu la Vierge Marie. Alors ça a été assez...
Mais elle a compris que c'était la Vierge Marie.
Elle a compris que c'était la Vierge Marie. C'était assez fulgurant comme vision, mais c'était au terme de sa vision négative. De l'EMI,
au moment
de la
où elle allait réintégrer son corps.
Voilà, exactement. Donc, c'est très intéressant. Il en existe d'autres, mais on peut dire que là-dessus, la Vierge Marie est un petit peu en retrait.
Oui. Alors, est-ce que nous avons des récits antiques sur ces phénomènes ? Parce qu'on en entend parler. On avait évoqué, en préparant l'émission, un peu de Platon, dans l'Antiquité, dans la République, il y avait le témoignage de R.
Voilà, c'est cela, oui. Un brave soldat qui se retrouve dans une situation évidemment médicale qu'on ose imaginer et qui atteste, qui allègue à travers un récit, être descendu dans les enfers, finalement. Oui. Mais son récit est construit et ses descriptions peuvent vraiment, vraiment évoquer une EMI. Ce n'est pas le seul. Hein. Il n'y a pas de culture humaine qui n'ait pas son EMI, si j'ose dire.
Ah oui, toutes les civilisations sont concernées,
que ce soit des civilisations, on va dire, d'origine sémite, ou extrême-orientale également, il y a des EMI. Et dans les premiers siècles du Moyen-Âge, vous avez aussi, notamment dans les vies des saints, quelques passages, quelques références. Alors évidemment, ce n'est pas inscrit EMI, puisque le phénomène à l'époque n'a pas la réalité.
On mettait peut-être ça sous le
terme de ravissement, d'extase. Voilà, c'est ça, de mort mystique. Enfin, il y avait tout une sorte de présentation religieuse derrière. Oui. Mais il y a de nombreux témoignages, même si nous en avons de plus en plus depuis maintenant une date récente, c'est-à-dire les années 70.
Peut-être que les gens osent davantage parler, je ne sais pas.
Les gens osent davantage parler. Le sujet est devenu, a été pris directement, enfin investi par la presse, par les médias.
Le docteur Moody.
Et le docteur Raymond Moody.
Alors, qui est ce docteur Moody?
Alors, c'est à la fois un psychiatre et un philosophe américain.
Reconnu.
Ah oui, reconnu.
Donc on peut vraiment s'appuyer sur ses écrits.
Oui, il est pionnier, pionnier en la matière. Mm-hmm. Alors ce n'est pas lui le tout premier qui a décrit une EMI, mais c'est lui qui s'est emparé du phénomène et qui a mené des enquêtes très rigoureuses sur le sujet. Et c'est assez finalement récent puisque la traduction de son livre sort en 1977 en France, son premier livre. Oui. Donc c'est pas très ancien. Alors il s'est aperçu, rapidement, que les récits dont il prenait connaissance venaient de toutes origines, de toutes sources. Il n'y avait pas, bien sûr, que des Américains sur le coup, et que ça venait un petit peu de partout. Et il s'est dit, mais voilà un phénomène, pourquoi est-ce que l'on ne parle pas davantage, etc. Mmh. Et il n'a pas trouvé d'explication, et même encore actuellement, il n'a jamais trouvé d'explication scientifique. Suite à ses travaux, il y a d'importants colloques qui ont été organisés en France et aux États-Unis ailleurs. Il y a des médecins de différentes spécialités, des cardiologues, des réanimateurs qui se sont penchés sur la question. Alors, il y a différentes hypothèses médicales qui ont été avancées, mais pour l'instant, nous n'avons rien.
Mmh. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il y a une EMI qui vous a particulièrement marqué? Une histoire où vous vous dites peut-être, ou alors finalement, elles se ressemblent toutes?
Elles se ressemblent toutes, mais chacune est différente. J'aime beaucoup, moi, celle de Madame Le Goff, que je viens d'évoquer, parce que c'est une personne tout à fait humble, modeste, pieuse d'ailleurs, mais dont le contenu du récit est incroyable. Incroyable. Il est clair qu'elle n'a pas pu inventer la partie, notamment la partie négative. Ce n'est pas possible. Oui. Ce n'est pas possible.
Nous reparlerons des EMI négatifs dans notre prochaine émission. C'est quelque chose dont je n'avais pas entendu parler non plus, parce que j'avais l'impression d'entendre à chaque fois le même récit. Donc je comprends qu'il n'y en ait pas une qui vous ait marqué plus que l'autre. En tous les cas, personne ne sort indemne.
Non, personne
tout
ne
le monde. Donc, mais on a presque envie de vivre ce genre d'expérience parce que parce que en fait, spirituellement, on se dit j'ai eu cette chance, j'ai toucher cette béatitude, ça doit être incroyable quand même.
Oui, à tel point que certains se sont posé la question, est-ce que ça ne va pas favoriser l'envie de suicide chez certains?
Ah oui, mais enfin, tout le monde n'est pas appelé à aller au ciel.
Non.
Enfin, si tout le monde, c'est faux ce que j'ai dit. Tout le monde est appelé à aller au ciel, mais on sait que tout le monde n'ira pas.
Oui, non. Mais voyez, qu'une personne qui a vécu une EMI, les gens n'ont plus peur de la mort en quelque sorte après avoir vécu ça. On s'est dit, mais est-ce que ça ne va pas entraîner finalement pousser des gens à se tuer?
Oui, Justine.
On n'entre pas au paradis par effraction.
Exactement. Non, bien sûr.
Ouais.
Et non, pas par la fenêtre, bien sûr. Oui. Non, tout à fait. Ouais.
Très bien. Alors, merci beaucoup, Patrick, pour toutes ces explications. Alors, pour en savoir plus, notre magazine 1000 raisons de croire que vous pouvez trouver en kiosque, en maison de la presse, en grande surface, traite de ce sujet. Vous avez vous-même, Patrick, dans ce numéro largement travaillé. Alors, j'invite tout le monde à acheter le magazine 1000 raisons de croire. Alors, je voudrais préciser quelque chose. Certains ne souhaitent pas exposer visiblement ou mettre en vente notre magazine d'évangélisation. Mais vous pouvez quand même le trouver dans notre boutique en ligne. Si vous voulez quand même essayer de le trouver en kiosque, allez voir votre kiosquier et demandez-lui pourquoi il n'a pas le magazine 1000 raisons de croire. Vous verrez des publicités fleurissent un petit peu partout sur les devantures des librairies, des maisons de la presse. Voilà. Alors, pour l'acheter en ligne, site Marie de Nazareth, onglet librairie. Voilà, vous le trouverez. La semaine prochaine, nous évoquerons de nouveau les EMI sous un autre regard. Bonne semaine à vous deux.
Merci
chers auditeurs, de votre fidélité.